Amélie Perrier est là pour le journal comme tous les jours. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce jeudi commence avec une question directe alors.
C'est le premier référendum d'initiative partagée qui va aussi loin. Le RIP pour annuler la privatisation des aéroports de Paris vient d'être validé par le Conseil constitutionnel désormais. Il doit être signé par plus de 4,5 millions d'électeurs. Des syndicats unis, réunis lors de cette journée de mobilisation pour sauver la fonction publique et contre la réforme préparée par le gouvernement. Toutes les centrales ont posé ensemble cet après-midi à Paris. Une nouvelle loi dans l'Église catholique. Le pape ordonne désormais à tous les religieux de dénoncer les abus sexuels. On se demandera ce que ça peut changer en France. Et faut-il démanteler Facebook? L'un de ses fondateurs le réclame aujourd'hui. Le réseau est trop puissant, dit-il. Attaque à la veille de la visite du patron, Mark Zuckerberg, à la présidence française. Encore de la pluie demain. Météo à la fin de ce journal avec Jean-Pierre Blimeau.
À 18h15, un jour dans le monde, on va parler d'Europe, puisque c'est la journée de l'Europe aujourd'hui, avec Marion von Rentergen. 30 ans d'une Europe qui commence euphorique à la chute du mur de Berlin, qui prend un pli dont on ignore tout aujourd'hui avec l'éclosion des populismes et puis le Brexit. Bien sûr, on se demandera ce qui s'est passé pendant ces 30 ans, ce que nous avons fait, nous tous, collectivement. Ce soir, nous sommes au Maroc, voir comment les jeunes gens ont des stratégies de contournement pour flirter et plus si affinité quand le sexe est interdit hors mariage. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on parle d'emprise, on parle d'humiliation, de blessures psychologiques, de mots qui font mal. T'es nul, t'es moche, tu sers à rien. On parle des pervers narcissiques. C'est une vidéo du calvaire enduré par Marion Bartoli notamment qui nous a fait réagir. La réédition d'un livre aussi qui a fait grand bruit sur le sujet. Les mécanismes de ces gens, les échappatoires pour s'en sortir. 01 45 24 7000. Le projet de privatisation d'ADP, Aéroport de Paris, sur la sellette.
Le Conseil constitutionnel vient de valider la procédure de référendum d'initiative partagée. C'est une première. Près de 250 parlementaires avaient enclenché ce RIP. Le Conseil constitutionnel est le deuxième feu vert nécessaire pour barrer la route à la privatisation. Maintenant, le texte doit recueillir les signatures de 10% du corps électoral, soit un peu plus de 4 700 000 électeurs. Mais, Laurence Perron, bonsoir.
Bonsoir.
Dites-nous d'abord ce qui a motivé le Conseil à valider ce RIP.
Eh bien, le respect des textes, tout simplement. Ce référendum d'initiative partagée, inscrit à l'article 11 de la Constitution par Nicolas Sarkozy en 2008, requiert la signature de moins un cinquième des parlementaires, soit 185 sénateurs et députés. Et on est là à 248 signataires. Alors, il fallait aussi que cette initiative ne revienne pas sur une loi promulguée depuis plus d'un an. C'est le cas avec cette loi dite loi Pacte. La proposition a donc été jugée conforme à la Constitution par les sages. Oui, il est possible de mettre aux voix du peuple français la privatisation de ce service public qu'est ADP.
Politiquement, Laurent, c'est une aubaine pour l'opposition.
Ah, et le Parti Socialiste, qui est à l'origine, n'est pas peu fier d'être parvenu à convaincre de la droite aux insoumis en passant par le centre. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS.
On est en train de brader y compris une part de notre souveraineté, puisque l'aéroport de Paris, c'est la première frontière de la France avec le reste du monde. Quand l'essentiel est en jeu, effectivement, il y a des gens de sensibilités différentes qui peuvent se retrouver sur ce sujet-là à produire une forme d'impeachment.
Alors, le chemin est encore loin. 9 mois pour recueillir les 4,7 millions de signatures nécessaires. Il y aura un site internet qui va être mis en place autour du 10 juin par le ministère de l'Intérieur. 2000 mairies pour ceux qui n'ont pas d'accès numérique. Là encore une aubaine. Après les européennes, c'est une nouvelle campagne qui commence et qui va durer 9 mois jusqu'aux prochaines municipales.
Laurence Perron du service politique, merci à vous. Les corps intermédiaires de retour en force, décidément aujourd'hui. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas eu la famille syndicale réunie au grand complet sur la même photo. La CGT, la CFDT, Force ouvrière, l'UNSA, tous les patrons des grandes centrales ont défilé à Paris pour défendre la fonction publique aujourd'hui. Le gouvernement présente son projet de réforme à l'Assemblée nationale à partir de lundi. Des syndicats de retour, après avoir été relégué au second plan par les Gilets jaunes depuis 6 mois. Adrien Toffolé, vous étiez dans le cortège parisien, retour des syndicats donc, mais avec quelques Gilets jaunes dans les rangs, Adrien.
Des syndicats côte à côte, CFDT, CGT, FO, dans un même cortège, une photo de famille rare. Derrière eux, des militants heureux de cette unité. Isabelle, dans le cortège CGT, salue ce rassemblement.
Évidemment, c'est primordial. C'est par là que ça peut commencer pour donner du sens et du poids à cette action, à cette revendication. Vraiment, c'est un enjeu très très fort. Et donc, l'unité, bien sûr, c'est très important.
Mais pour elle, comme pour de nombreux manifestants, aujourd'hui, il faut aller plus loin que la simple union des syndicats.
En fait, même les slogans dans les manifestations sont un petit peu faibles au regard des enjeux. Certes, il faut défendre les statuts, le pouvoir d'achat, mais c'est un vrai projet de société qu'il faut défendre avec un projet politique. Je pense que quand même, il y a beaucoup de gens qui commencent à ouvrir les yeux et les Gilets jaunes y ont beaucoup aidé.
Et du jaune, il y en avait justement des syndicalistes avec Gilets jaunes sur le dos par solidarité, mais aussi des Gilets jaunes en personne, comme Marc, pour qui tous les mouvements sont voués à se rejoindre.
En général, quand il y a l'unité, ça veut dire que l'heure est très grave.
Pour l'instant, j'allais dire, il nous reste la grève, il nous reste les manifestations. Et on voit bien que c'est pas suffisant, très clairement. Il va falloir que le peuple, le mouvement ouvrier, qu'on invente d'autres stratégies de lutte. Malheureusement, ces gens-là ne comprennent que le rapport de force.
Une convergence des luttes qui, si l'on en croit, les manifestants syndicalistes comme Gilets jaunes, est attendue incessamment sous peu.
Merci Adrien Toffolet avec Laurent Macchietti aux moyens techniques.
Il est 18h presque 6 sur France Inter. Les armes françaises, Amélie, ont-elles ou vont-elles tuer des civils au Yémen?
Le cargo saoudien venant pour charger des armes arrive finalement aujourd'hui au Havre. Le site d'investigation Disclose affirme qu'il va convoyer des équipements militaires que l'Arabie saoudite a achetés à la France et qu'elle pourrait utiliser donc dans la guerre menée au Yémen. Guerre contre les rebelles houthis, une minorité chiite soutenue par l'Iran, le grand rival de l'Arabie saoudite dans la région. Une vente contestée par des défenseurs des droits de l'homme. Ils manifestent ce soir sur le port du Havre. Pour Marie-Claire Gégadan, la présidente du comité pour la paix au Havre, interrogée par Bertrand Queneut, la catastrophe humanitaire au Yémen doit inciter la France à la plus grande prudence.
On dit 60 000 morts. On dit aussi 16 millions de personnes menacées d'une manière alimentaire. Et on dit aussi un enfant qui meurt toutes les 5 minutes. Soit par les bombardements, soit par la famine. Et ça, évidemment, on ne peut que le dénoncer.
Est-ce que ça vous choque que la France, aujourd'hui, ne prenne pas la précaution, au moins, d'arrêter de livrer des armes parce qu'elle ne sait pas, justement?
C'est choquant et c'est contraire au fameux traité de commerce sur les armes. C'est bien précisé qu'à partir du moment où on livre des armes à un pays en guerre, on ne peut pas le faire si ces armes contribuent à tuer des personnes civiles.
Ce à quoi a répondu Emmanuel Macron en personne. Le président le garantit, les armes françaises livrées aux Saoudiens ne tueront pas de civils.
L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont des alliés de la France. Et ce sont des alliés dans la lutte contre le terrorisme. Et donc nous l'assumons totalement et ce sont des alliés que nous accompagnons avant tout par des accords gouvernementaux. Je rappelle qu'aux Émirats Arabes Unis, nous avons une des plus grandes bases françaises à l'étranger. Et donc en effet, il y a des relations qui se font sur le plan militaire. Il y a un comité qui gère ces exports, qui se fait sous l'autorité du Premier ministre et dans lequel les choses d'ailleurs ont été durcies ces dernières années et où nous demandons la garantie que ces armes ne puissent pas être utilisées contre des civils. Néanmoins, il est tout à fait vrai que la France, depuis plusieurs années, a vendu des armes à la fois aux Émirats Arabes Unis, à l'Arabie Saoudite. L'essentiel des armes qui ont été vendues sont plutôt utilisées à l'intérieur du territoire ou à la frontière, mais elles sont utilisées dans le cadre d'un conflit. Néanmoins, je tiens ici à dire ce que nous avons rappelé, c'est-à-dire d'avoir la garantie que ce ne soit pas utilisé contre des populations civiles.
Le chef de l'État au micro de Bertrand Galichet. Le risque d'un embrasement en Iran après la décision du pays de renoncer à certains engagements de son accord nucléaire en représailles au discours hostile des Américains. Aujourd'hui, les Européens rejettent l'ultimatum de Téhéran. S'ils ne sortent pas les secteurs bancaires et pétroliers iraniens de leur isolement, la République islamique peut arrêter d'appliquer d'autres engagements. Les États-Unis sur tous les fronts. La Corée du Nord a attiré des missiles, selon son voisin du Sud, des missiles à courte portée, semble-t-il. Ces manœuvres ont été menées quelques heures après l'arrivée à Séoul du représentant spécial américain pour la Corée du Nord. Est-ce une autre arme de destruction massive? Facebook, le réseau social aux 2 milliards d'utilisateurs. À la veille de la visite de Mark Zuckerberg à l'Élysée en France pour rencontrer Emmanuel Macron, un autre cofondateur, Chris Hughes, lance une charge cinglante dans une tribune aujourd'hui du New York Times. Selon lui, aujourd'hui partie du groupe, il faut démanteler le réseau social trop puissant. C'est la correspondance à Washington de Grégory Phillips.
Il est de notoriété publique que les deux hommes qui ensemble ont imaginé Facebook en 2004 dans leur chambre d'étudiants à Harvard ne s'entendent plus. Chris Hughes d'ailleurs a quitté la compagnie 3 ans plus tard et revendu toutes ses actions en 2012. Mais l'attaque vient donc cette fois de l'un des créateurs du réseau social. Le plan média est parfaitement orchestré. Tribune dans le New York Times, interview aux radios et télé comme ici sur NBC. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que Facebook qui est devenu trop gros, dit Chris Hughes. Et dans le New York Times, il précise « Zuckerberg a aujourd'hui plus d'influence que n'importe quel dirigeant politique ou chef d'entreprise dans le monde ». Dans cette tribune, Hughes exprime un regret qu'à l'époque, en 2004, nous n'ayons pas imaginé que nos fils d'actualité et leurs algorithmes allaient ainsi changer notre culture, influencer des élections ou donner la parole à des dirigeants nationalistes. Sur la radio publique NPR, enfin, Chris Hughes explique qu'à ses yeux, Zuckerberg est tellement puissant qu'il ne doit de compte à personne, dit-il, et les autorités devraient démanteler sa compagnie et la réguler. Avec Facebook, Instagram et WhatsApp, l'entreprise connaît une situation de quasi-monopole que Chris Hughes a contribué à créer il y a 15 ans. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et toujours à l'étranger, Amélie, cette loi inédite du pape François.
Il dévoile un texte sans concession pour obliger les hommes d'église et les religieuses à signaler tout abus sexuel et toute dissimulation par la hiérarchie catholique. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Vous allez nous expliquer en quoi consistent ces nouvelles règles.
Qui est concerné d'abord? Prêtres, évêques, religieux. Dans un an, le temps accordé par le pape, ils devront signaler systématiquement tout cas de violence sexuelle, agression, harcèlement et aussi rapporter quand un homme d'église semble vouloir enterrer une affaire. Alors là, on parle bien de signalement au sein de l'église, pas de signalement à la justice. Des cellules d'écoute seront mises en place dans tous les diocèses du monde, y compris dans certains pays d'Asie ou d'Afrique, où la parole est loin de s'être libérée.
Mais en France, ça change quoi, Julie?
Alors, il faut déjà bien comprendre que c'est une loi de l'église, et cette loi de l'église, elle passe après la loi française. Or, en France, signaler des crimes, des viols, des actes pédophiles à la justice, c'est déjà une obligation. Monseigneur Ibado Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Nous sommes, nous, très clairs avec cela. Le signalement à la justice, nous le faisons et nous le continuerons à le faire. Il est important que soit les victimes puissent porter plainte, soit les auteurs puissent se dénoncer, soit que l'évêque, qui est, ou tout citoyen d'ailleurs, qui a connaissance d'un acte de pédocriminalité, puisse le signaler à la justice.
Il existe déjà en France des plateformes de signalement dans les diocèses, des cellules d'écoute. Alors est-ce que cela veut dire pour autant que les informations remontent et sont traitées correctement? C'est évidemment une autre question. L'association de victimes La Parole Libérée estime par exemple qu'avant de faire des réformes, le pape devrait d'abord faire le ménage dans l'église sur tous les cas déjà connus.
Julie Pietri, merci beaucoup. Un bras de fer autour d'un barrage, le lac de Caussade dans le Lot-et-Garonne. D'un côté, la chambre d'agriculture à l'origine des travaux pour la retenue d'eau. Travaux illégaux pour un lac de plus de 900 000 mètres cubes et une digue de 300 mètres de long, travaux quasiment terminés. Mais de l'autre côté, la préfecture, avec les défenseurs de l'environnement, la représentante de l'État demande à la Chambre d'agriculture de remettre le site comme avant les travaux. Elle lui ordonne de consigner 1 million d'euros pour financer le chantier. Seulement voilà, les agriculteurs persistent, la mise en eau a commencé. Notre reporter Alain Gastal s'est rendu sur place.
Ce n'est encore qu'une grosse flaque d'eau boueuse au fond d'une trouée que finissent de consolider les engins de terrassement, mais c'est déjà un objet de curiosité. Les paysans du département viennent contempler le fameux barrage interdit et l'un d'eux, Jacques, ne comprend pas qu'on privilégie quelques coquelicots à l'irrigation de 40 fermes.
Mais vous en faites pas, les coquelicots, il y en a ailleurs, ils vont pas mourir. Le principal, c'est que les paysans, ils meurent pas, les coquelicots, il y en aura toujours, même quand tous les hommes seront morts, il y aura des coquelicots, vous voyez bien. Même les roses, on n'arrivera jamais à les tuer.
La Chambre d'agriculture, maître d'œuvre, doit consigner 1 million d'euros désormais, le prix des travaux de remise en état qu'elle a 18 mois pour réaliser. C'est exactement l'inverse qui va se produire pour Serge Bousquet-Cassaigne, qui veut rendre le chantier irréversible en remplissant le lac.
Le jour où Madame le Préfet nous contingentera le million d'euros, dès le lendemain, on mettra en œuvre une procédure de licenciement collectif de 15 salariés, les dernières entrées, malheureusement les plus jeunes. Dans un deuxième temps, si Madame le Préfet cherche à vouloir recombler le lac, nous serons là au pied du lac pour défendre ce territoire que nous avons sacralisé.
Et les agriculteurs du Lot-et-Garonne ont déjà mis en échec les gendarmes venus poser les scellés sur les engins de chantier cet automne. Ils ont fait face à 300 d'entre eux en colère et ont dû faire demi-tour. Sainte-Livrade, Alain Gastal, France Inter.
Et pour terminer, une nouvelle attaque de requins à La Réunion. Un surfeur a eu la jambe arrachée, il en est mort. C'est la 24e attaque de requins sur l'île de l'océan Indien depuis 2011. Les services de l'État ont prévenu que l'on entrait dans la saison la plus dangereuse juste avant l'hiver austral.
Amélie Perrier pour le journal, merci beaucoup.